carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Chef-d'œuvre du théâtre, la rubrique animée par Jacques Pogam.
Bonjour, notre invité est aujourd'hui Jean-Laurent Cochet, comédien, metteur en scène, directeur de compagnie, professeur. C'est l'une des grandes figures du monde du théâtre d'aujourd'hui, une sorte de mémoire théâtrale même de notre époque. Jean-Laurent Cochet qui vient de jouer le rôle de Philaminte dans Les Femmes Savantes, la pièce de Molière présentée à Paris au Théâtre 14 dans une mise en scène d'Arnaud Denis, un spectacle qui restera probablement comme l'un des principaux événements théâtraux de la saison 2009-2010 et qui a les plus fortes chances d'être repris dans une autre salle à Paris et en tournée. Jean-Laurent Cochet, bonjour.
Bonjour, Jacques.
Alors, dans cette mise en scène des Femmes Savantes, vous donnez vraiment l'impression d'éprouver une véritable jubilation à interpréter, j'allais dire à être, le personnage de Philaminte, donc cette femme qui, au nom du culte de ce qu'elle croit être le savoir et la culture, tyrannise sa famille et au premier chef, évidemment, son mari. Alors à quoi tient cette jubilation que le public, d'ailleurs, partage immédiatement ?
La jubilation, d'abord, c'est le fait de jouer, quand on joue Molière, c'est immédiatement une jubilation. Même si, j'ouvre une parenthèse, permettez-moi, pour dire que je suis assez violemment adepte de la version Corneille-Molière. Mais on en parlera.
On y reviendra.
Ah bon, très bien. Parce que maintenant, j'ai un peu de scrupule quand je dis Molière, j'ai toujours l'impression d'oublier quelqu'un. Quoi qu'il en soit, c'est un théâtre jubilatoire, parce que vibratoire, parce que tout à fait charnel. Et alors, le fait de jouer, pas seulement le fait de jouer une dame, parce que tout rôle son proposition, il n'y a pas de sexe, si j'ose dire, au théâtre. On joue une dame comme on joue un assassin, comme on joue un docteur, comme on joue... C'est une question de caractère et de tempérament. Mais il est certain qu'entrer en scène, en représentant, sous un aspect donc maquillage, costume, une créature du XVIIe siècle, au verbe haut, à l'autorité joyeuse, parce que c'est une femme, en fait, qui se réalise complètement dans
C'est un dragon, quand même.
C'est un dragon. D'ailleurs, c'est le mot qu'utilise Molière. Et alors, ce qui est amusant, c'est que je suis à peu près certain, puisque le rôle avait été créé, à l'époque de Molière, par un homme. Et ça, je l'ignorais, je dois avouer. Je savais que c'était le cas pour Madame Pernelle dans Tartuffe, mais quand Arnaud Denis m'a proposé de faire Philaminte, je lui ai dit pourquoi pas, je vais y penser. Mais je ne savais pas que c'était l'acteur Hubert, je crois qu'il s'appelait, qui avait créé la pièce. Et alors, on se rend compte que Molière a dû le vouloir, effectivement. C'est pas parce qu'il n'avait pas de femme de cet âge-là dans sa compagnie, s'il a souhaité que ce soit un homme. Ce qui, à l'époque, n'était pas tellement étonnant. Hein. C'était encore moins étonnant au XVIe avec Shakespeare. Mais ça arrivait souvent de fois. Et quand il parle, justement, quand il fait parler Chrysale, le mari, de sa femme, elle me terrifie quand elle prend son ton, c'est un vrai dragon, elle prononce le mot que vous avez dit vous-même, donc ça peut être très crédible. Mais ce qui me fait un immense plaisir, c'est que, comme vous venez de le dire, à l'entrée du personnage, il y a une espèce de jubilation, c'est le mot, qui se communique avec la salle et qui peut se traduire pour certains spectateurs par une espèce de saisissement quand même, pas seulement pour ceux qui me connaissent autrement qu'en robe. Mais ce qui m'a fait plaisir, ce qui m'a énormément flatté, c'est que, apparemment, et on le dit, au bout d'un petit moment, ça paraît parfaitement logique. C'est-à-dire que le personnage devient parfaitement crédible.
Est-ce que je peux vous faire une confidence sur l'interprétation de cette jubilation ?
Mais bien sûr.
On se dit, quand on vous voit, on dit quand même, il est capable. Il est capable de faire ça. Et non, c'était quand même extraordinaire, le théâtre.
Extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, bien sûr.
Alors, cette pièce est probablement l'une des pièces de Molière où le style est le plus élégant, le plus maîtrisé.
Oui.
Et ce qu'il y a d'étonnant dans cette représentation-là, c'est que ce texte en alexandrin passe comme si c'était la vie la plus naturelle qui soit, le plus simplement qui soit. À quoi tient cette performance ?
Je pense d'abord que même à la création, c'est Pierre Gaxotte qui me rappelait ça. Et Audiberti en a très bien parlé dans son Molière. Il était tout à fait naturel, et surtout au théâtre, de s'exprimer en vers. C'était une chose naturelle, c'était une chose quotidienne. Et ce sont des pièces en prose qui paraissaient pour assez insolites, assez originales. Donc c'est déjà une indication comme quoi ce ne sont pas des vers empoulés, ce ne sont pas des vers dont il faut systématiquement, ça aussi ça a été une grande erreur à mon avis pendant des années, même des siècles, la notion d'articulation et de diction des vers. Maribel me disait toujours, tu sais, moi j'ai rarement dit un alexandrin de 12 pieds, en général il y en avait 10 et demi ou 11, parce qu'il ne s'agit surtout pas d'articuler toutes les syllabes. Un verbe est parfait si par écrit il a 12 pieds, quand ce sont des alexandrins, mais quand on les parle, et les plus grands acteurs que j'ai pu connaître quand j'étais tout petit, mais qui eux vivaient encore, on se devait de faire toutes les élisions. C'est un langage familier, c'est un langage quotidien, et ceux qui l'ont rendu un petit peu classique dans le mauvais sens du terme, c'est quand on les dit d'une manière trop solennelle, trop pompeuse, c'est avoir de bons yeux que de voir tout cela, ça n'existe pas. Par écrit, le verbe est parfait, mais on dit c'est avoir de bons yeux que de voir tout ça.
Arnaud Denis, d'ailleurs, aime bien répéter une phrase de Béatrice Dussan qui dit « pas trop de pieds, des ailes ».
Ah oui. Ah, il dit, je vais le contredire, alors je peux me permettre, puisque c'était mon élève, donc il a dû entendre ça au cours. C'était pas Dussan, et Dieu sait qu'elle en a dit non, elle en a dit des, pardon de vous reprendre, de le reprendre à travers vous, et Dieu sait qu'elle en a dit des milliers de choses admirables. Non, ça c'était Berthe Bovy.
Ah oui.
Et elle l'a même dit, pour la petite histoire, à la fille de cette femme charmante qui nous a quittés, la fille de Jean Anouilh, qui s'appelait Catherine Anouilh, et que son père avait envoyée chez Berthe Bovy pour qu'on l'écoute, pour savoir. Bon. Et elle avait dit les deux pigeons. Et les deux pigeons, c'était un peu le domaine réservé de Berthe Bovy. C'était une fable qu'elle disait à la perfection. Elle était une des seules à vraiment très bien dire les fables. Et à la fin, elle lui avait dit... trop de pieds, mon petit, mais pas assez d'ailes.
Donc, c'est Arnaud Denis qui a mis en scène ces femmes savantes.
Remarquable.
Lui, on lui doit déjà remarquable pour Boris Capin.
Remarquable.
Remarquable, ingénu, d'après Voltaire. Mmh. On peut dire, il n'a que 25 ans.
Oui, oui.
Donc, on peut dire que c'est certainement l'un des plus doués de la jeune génération.
Absolument.
Le plus prometteur. Est-ce qu'il vous a fait découvrir, à vous qui avez le théâtre dans le sang, est-ce qu'il vous a fait découvrir quelque chose sur Molière et de Molière?
Pas forcément sur Molière ou de Molière, mais il m'a fait adhérer à des idées qu'il a eues. Je m'interdis de dire le mot trouvaille, parce que c'est très dangereux. Ça, quand un metteur en scène a des trouvailles sur une pièce, il veut dire par là que l'auteur ne les avait pas eues. Ce qu'il a d'extraordinaire, c'est qu'il sait approfondir le jeu des comédiens relativement à l'écriture, pour nous dégager justement des mots et en revenir au verbe, c'est-à-dire à la vie, à la respiration. Et pour mieux mettre cela en valeur, il a des idées de mise en scène. Par exemple, le fait, ça n'est absolument pas gratuit, le fait que le deuxième acte de la pièce se passe pendant que la famille déjeune. Donc, ça ne s'était jamais fait, ça. Et ce qu'il y a de très joli, c'est que d'abord, ça nous permet de voir la famille réunie, car c'est avant tout l'histoire d'une famille. Et puis, c'est pendant ce déjeuner que tout d'un coup, Chrysale, le mari, éclate sur quelques réactions qui l'enragent. Et le fait que ce soit pendant une situation si familière, si quotidienne, ça permet de mieux écouter la fameuse tirade de Chrysale, « Faut qu'enfin j'éclate », etc., sur les femmes savantes. Sinon, on avait toujours eu de bons acteurs, d'ailleurs, très souvent, la comédie française de notre passé, plantée au milieu du plateau, bah, comme l'avait voulu l'auteur. C'était pas une longueur considérée à l'époque. C'est le monsieur explosait, il décharge sa bile, et tout le monde l'écoutait autour, assis un peu partout. Là, ce qu'il y a de très puissant, c'est qu'il a cette explosion pendant que les quatre autres femmes qui sont là sur le plateau prennent leur repas jusqu'au moment où, de temps en temps, Philaménte lui fait les gros yeux, et puis ils arrêtent. Et la tirade de Chrysale, tout d'un coup, passe comme une lettre à la poste, alors que souvent, c'était un pavé. Oui. Et il a eu quelques idées comme ça, qui sont tout à fait neuves, mais fidèles, mais qui servent la pièce. C'est là qu'il est exceptionnel. C'est qu'en dépit de son jeune âge, il ne se dit pas « je vais tout réinventer ». Au contraire, il est fidèle, et c'est cette fidélité, là je me retrouve à son âge, qui l'amène à découvrir une façon de mieux faire entendre le texte. C'est un directeur de comédien, ça aussi c'est très rare chez les jeunes, parce qu'en principe c'est le fait de l'expérience, qui a une mise en scène, hein, c'est comme un chef d'orchestre, c'est un directeur d'acteur, et il le fait avec une grande autorité et en même temps infiniment de souplesse. Il sait exactement ce qu'il veut, sans être entêté, et il sait l'obtenir de ce comédien avec infiniment de délicatesse.
Alors, tous ceux qui ont travaillé avec vous savent que vous vénérez Molière comme le patron de troupe, comme le maître des comédiens, mais il y a de votre part quand même un très grand bémol, vous y faisiez allusion oui. Il y a quelques minutes, oui. C'est que vous lui récusez la paternité de ses pièces.
Oui, pas totalement, parce que ça, on ne pourrait pas. Il ne s'agit pas de preuves, d'ailleurs, on en a suffisamment qu'il n'a pas pu tout écrire, d'une part, et que Corneille y a participé. Ce qui m'amuse, d'ailleurs, c'est un détail, mais il est de poids, c'est que les gens, certains, de moins en moins, d'ailleurs, s'étonne quand on dit que c'est Corneille qui a écrit la plus grande partie des plus grandes pièces, mais le fait de savoir dès le 17e que c'est Corneille qui a écrit Psyché, ça, personne n'avait l'air de s'en étonner. Alors, je ne vois pas pourquoi, dans l'autre sens, il faudrait maintenant dire « Ah bon, comment Corneille a participé ?» Mais bien sûr, moi j'étais ça, si vous voulez, j'avais lu tout ce qu'il était possible de lire de Pierre-Louis, parce que ça me passionnait. J'en avais parlé à Madame Dussan, justement, qui m'avait dit « Oh, ce sont de ces choses, on en parle pas, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. » Ce qui était quand même un label extraordinaire, et elle m'avait dit « D'ailleurs, souviens-toi du titre de mon livre. » Effectivement, je lui dis, ben elle me dit « J'ai appelé ça un comédien nommé Molière. » Car c'était un comédien, on est devant une œuvre où il y a un grand auteur et un grand comédien, car ça ne retire rien à la créativité de Molière en tant que chef de troupe, metteur en scène, comédien. Alors, il est paru il y a très peu de temps un livre absolument définitif, à mon avis, qui est de Denis Boissier. Franck Ferrand a apporté aussi sa pierre à l'édifice. Et là, il vient d'en sortir un, il y a deux semaines, je crois, quelques jours, de deux messieurs, dont l'un s'appelle Monsieur Goujon, je crois. Ils me l'ont envoyé. Alors, il y a des tas de preuves concrètes, si j'ose dire, quant aux emplois du temps, quant à la rencontre des deux auteurs, le fait qu'on n'ait pas un mot d'écrit de Molière, sauf une facture avec des fautes d'orthographe signées de son nom. Et puis, il y a surtout, alors moi, je me fonde là-dessus, j'ai commencé à faire du théâtre à 11 ans, j'ai commencé à enseigné à 19. Je connais donc absolument par cœur, à quelques vers près, dans les pièces les moins connues, le théâtre dit de Molière et celui de Corneille, bien qu'on l'ait malheureusement abandonné, car pour moi c'est le grand auteur du 17e. Eh bien, c'est évident. C'est évident parce qu'on retrouve comme formule, parce qu'on retrouve comme rythme, comme cadence, comme vocabulaire. Quand on les connaît bien tous les deux, je prends l'exemple de Don Juan, par exemple, il était impossible à Molière d'écrire les tirades de Don Luis, de Don Elvire, de Don Juan. Et à mon avis, et là j'en suis tout à fait sûr, il a quasiment improvisé, et je ne sais qui conservait ça, les scènes des paysannes, les scènes de Monsieur Dimanche, et en particulier, au dernier acte, il y a la grande tirade de l'hypocrisie de Don Juan, qui est du Corneille pur, et puis après, il y a cette espèce de sketch à la De Vos, où Molière s'en est donné à cœur joie en tant que comédien, et c'est une improvisation quasiment surréaliste. Il y a les deux styles. Ce qui est amusant maintenant, c'est d'essayer de voir, dans des pièces de Molière, quels sont les endroits où Molière a pu intervenir par nécessité pour un jeu de scène, par exemple. Exemple, dans Tartuffe, il y a un petit moment, je prends comme exemple, c'est tellement évident, il y a une très belle tirade, très bien phrasée, rythmée, calibrée, et puis tout d'un coup, le personnage dit à l'autre « Mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. » Ce qui est d'une platitude sale. Et on se dit bah, « Ça, il a eu besoin que le personnage s'assied et l'autre lui a écrit ça. » Non, et puis Molière, auteur, c'est un improvisateur, était un monsieur qui avait pris ses sources au théâtre, dans le théâtre de Foire, dans le théâtre du Pont-Neuf. Ce sont les premières pièces très mauvaises, il faut bien l'avouer, qu'on ne joue jamais. Le médecin volant, la jalousie du barbouillé. Et puis tout d'un coup, il y a eu une autre écriture, une autre respiration. Alors les gens vous disent, c'est là qu'est le génie. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. En plus, il était bouffon du roi, vous savez, c'est son titre officiel à la cour. Et il n'avait absolument pas, il n'aurait pas eu le temps, même matériel, d'écrire tout ça, alors que Corneille écrivait toutes ses pièces en un mois et demi, deux mois. Il était prolifique. Puis enfin, tout ce qu'on peut savoir de leur rencontre, c'est à partir du moment qu'ils se sont rencontrés à Rouen. Etc. Et ça ne gênait personne à l'époque, parce que le travail collégial était tout à fait admis. Corneille lui-même, pour son théâtre ou d'autres, était aidé par son frère, Molière, Thomas Corneille, par Donaud de Visée, et tout ça on le sait, tout ça on l'a. Béjart, le comédien de la troupe de Molière, était co-auteur, et ça ne surprenait pas les gens. D'autant qu'on sait que Corneille était aux abois, avait besoin d'infiniment d'argent, puisqu'il était mal en cour à l'époque. Alors que Molière était richissime de par sa charge de bouffon du roi. C'est pour ça que quand Madeleine Béjart a créé la compagnie, il les a rejoints et il les a commandités. C'est une histoire absolument qui paraît extravagante maintenant et qui est tout à fait évidente. C'est seulement à l'époque des romantiques, vous savez, qu'on a remis en jeu ces choses-là avec les vers de Musset. Mais il ne faut pas oublier, rien que ce vers-là serait définitif. Quand Boileau dit, dans le sac ridicule où ce Capin s'enveloppe, « Je ne reconnais pas l'auteur du Misanthrope », ben, ça dit tout. Scapin est effectivement une pièce de Molière, avec des Lazzi, avec tout ce qui découle de ce théâtre de foire. Et puis le Misanthrope est une pièce, d'ailleurs combien de fois on a dit, sans penser à Corneille, parce qu'on oubliait qu'il avait écrit des comédies, combien de fois on a dit « Mais le Misanthrope, c'est une pièce de Racine ». Oui, ça aurait pu être une pièce de Racine, dans la mesure où Suréna, la dernière pièce de Corneille, et un de ses chefs-d'œuvre, pourrait être aussi du Racine. Et puis, il faut surtout ne pas oublier les premières pièces quasiment inconnues maintenant de Corneille.
Pensez à Mélite, hein, c'est ça, à ces pièces-là, c'est ça. La galerie du Palais,
la place royale, la suivante, sont des
l'illusion
pièces.
L'illusion comique, le menteur,
tout ça. Le menteur et la suite du menteur. Et l'illusion comique. Il y a tous les styles dans l'illusion comique. Et ça, c'est le Corneille. Il y a tout. Il anticipe même sur des auteurs à naître. C'est une œuvre absolument effarante. Non, pour moi, c'est plus une question qui se pose. Et je trouve que c'est à leur gloire à tous les deux. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on rende à Corneille ce qu'on ne lui a jamais accordé, en comprenant que ça n'est pas déboulonner une statue, que Molière reste un grand homme de théâtre, beaucoup plus qu'un grand auteur.
Donc un grand homme de troupe, quoi.
Exactement.
Et vous, le mot de saltimbanque, vous savez ce que c'est.
Oh, bien sûr, ça n'est pas péjoratif.
Alors, vous placez l'œuvre de Molière, Corneille au-dessus de tout, sauf d'une autre œuvre. Et parfois, les gens sont surpris en vous entendant le dire. Oui. C'est celle de Guitry.
Oui, absolument.
Vous mettez Guitry au-dessus.
Ah oui. Je ne crains plus tout ça maintenant que mon âge me permet d'émettre des opinions qui n'appartiennent qu'à moi. et que certaines réussites dans ma carrière font qu'en général, on les respecte. Oui, alors ça, c'est encore inépuisable. Et c'est un... Dieu sait qu'il n'a jamais eu de purgatoire, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, qu'il a toujours été joué, qu'on recommence à le vénérer, etc. Mais sans vraiment connaître totalement toute son œuvre qui est monumentale par le nombre et par la qualité. D'ailleurs, je viens d'écrire, qui sortira, je pense, en avril, pour les éditions Oxus, dans leur département à la rencontre de... on demande à Alexandre Tarot, par exemple, de faire un livre sur Ravel, ça a normalement d'en faire un sur Guitry, en essayant de rester, ça c'était mon choix, dans l'anecdote, pour être très proche du lecteur, des spectateurs, de ses films, etc. Mais j'ai souhaité mettre en post-face, pour hausser un petit peu le débat, la dimension théâtrale, et au-delà de la dimension théâtrale, la dimension universelle de la pensée de Guitry. Il a été un tel réjouisseur des salles, il a été tellement distrait, tellement joyeux, tellement... qu'on en a vu simplement chez lui l'amuseur, le monsieur qui faisait rire aussi bien la concierge, c'est-à-dire des concierges très érudites, que le grand homme. Ça, c'est la veine du grand auteur dramatique. Comme me disait Roussin, j'ai la chance que ce qui me fait rire dans la vie fasse rire aussi le spectateur. Et ce qu'aimait Guitry, il a su le traduire et nous le faire aimer à travers des intrigues, des mots, des mouvements, des tons, des rythmes immédiatement accessible. Pour moi, le parallèle, et c'est là que les gens, dans mon prochain livre, pas celui sur Guitry, qui va sortir chez Pygmalion en janvier, je dis, je n'en parle pas parce qu'on m'enfermerait, mais pour moi, le grand parallèle à faire, c'est entre Shakespeare et Guitry. Et même si Shakespeare est effectivement un monsieur qui a écrit beaucoup d'une façon collégiale, et ça, tout le monde l'admet, c'est drôle, peut-être parce qu'il est anglais. Vous savez ce qu'avait dit Guitry, d'ailleurs, il avait dit un mot extraordinaire quand on parlait de ça, Shakespeare n'a pas écrit ses pièces, etc. Et il avait dit, mais bien sûr, mais c'est tout à fait vrai, Shakespeare n'a pas écrit ses pièces, elles ont été écrites par un homme de génie qui signait Shakespeare.
Alors, vous dites aussi qu'aucun autre auteur n'a établi des liens aussi forts avec le public.
Que Guitry ?
Oui, ah, alors, oui, ça va à l'encontre de l'image qu'on a de cet homme hautain, orgueilleux, vaniteux.
Ce qu'il n'était absolument pas. Je crois qu'il
y avait une histoire d'amour entre...
Lui et le public ?
Oui.
Oh,
mais de sa part à lui.
Ah, comment ? Mais c'est ce qu'il disait, je ne sais plus laquelle.
Sa maîtresse, c'était le public.
Elle l'a dit, je crois que c'est dans Le Comédien, d'ailleurs, où la femme à qui il a voulu faire ce métier parce qu'il l'aimait et qu'elle n'y arrive pas, et comme elle est furieuse, elle le quitte. La pièce qu'avait créée son père, d'ailleurs. Et à la fin, il dit, mais en définitive, il y a plus important, j'ai un autre rendez-vous d'amour ce soir avec 1200 personnes. Ah mais c'est de l'amour, le théâtre de Guitry, c'est le plus grand théâtre d'amour qui existe. Alors que
sauf dans Le Mariage, hein.
D'accord. Sauf dans Le Mariage. Oui, et alors là, c'est très curieux parce que moi personnellement, j'ai pas envie d'en savoir davantage parce que toutes les dames qui l'ont approché, contrairement à sa réputation et pas seulement dans Le Mariage, car il y en a eu d'autres, se sont permis étant indiscrètes quelquefois de me dire il n'avait rien à envier à d'autres. C'est donc
contrairement à la dernière image.
Contrairement à la dernière image, oui. Et puis ça c'est je sais pas, ça, c'est comme si on s'attardait sur tous les petits favoris de Shakespeare ou sur les malheurs de Phédo dans sa famille. Non, c'est extraordinaire, c'est que l'amour qu'il avait pour la vie, l'amour qu'il avait pour les arts, l'amour qu'il avait pour le beau, pour l'harmonieux, il le transmettait à toutes ses intrigues. C'est là qu'il a un niveau, un degré d'observation extraordinaire qui rejoint Shakespeare. C'est-à-dire que dans une histoire de cuisine, une cuisinière, une femme de chambre qui parle au début de la pièce Désirée, à travers ce qu'elles disent, c'est le point de vue de Sirius qui est posé sur elle. C'est le regard du créateur. Il a un amour pour toutes ces créatures qui lui ont facilité la tâche. Alors bien sûr que son style est époustouflant, mais il est avant tout fluide par la facilité qu'il a de faire se raconter les autres. Alors c'est une œuvre, quand il faut la jouer, c'est là qu'on s'en rend compte. Si on ne cherche pas à imiter certains extérieurs de Guitry, quand il pérorait dans certains rôles, c'est tous ceux qui ont cherché à l'imiter en faisant « mais moi, quand j'ai... » se sont écrasés complètement. Ceux qui ont cherché à jouer son théâtre en prenant le contre-pied, se sont écrasés de la même manière. Il faut découvrir que son théâtre se respire. D'ailleurs, il l'avait dit à sa dernière femme, la merveilleuse Lana Marconi, avec qui j'ai pu avoir beaucoup, beaucoup de relations après sa mort, la mort de Guitry. Je lui ai dit, mais parlez-moi, dites-moi un peu comment il parlait aux comédiens, etc. Et là où ça m'a bouleversé, c'est qu'une de ses grandes phrases, c'était ce que moi j'ai dit à tous mes comédiens quand on joue du Guitry, ce que j'ai essayé d'appliquer moi-même, mes pièces se respirent larges et se jouent légers. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on ne part pas du tout d'ici, vous voyez, c'est pas du tout le champagne, comme on dit toujours, c'est pas les bulles. Ça se traduit après par de la dentelle, par des bulles, par tout ce qu'on veut, par de la grâce, mais ça va se respirer très bas. Tout ça, c'est dans la sangle abdominale. C'est un auteur très chaleureux, très physique, très nombreux. Il faut aller chercher très en bas et puis hop, on laisse ça monter à la surface. Et ça se traduit par un joli mot, ça se traduit par une jolie phrase. Il y en a un autre qui est comme ça et c'est pourquoi c'est le plus difficile à jouer avec Guitry.
Non,
paradoxalement, Musset. Oui, parce que Marivaux, c'est le dernier classique, on pourrait dire que c'est le premier moderne, mais c'est le dernier classique. C'est-à-dire que c'est encore complètement élaboré. Il y a la grâce qui circule, mais sous un texte complètement précis, qui devient précieux, mais complètement aigu. Quand même. Tandis que dans Musset, ben, il faut penser trois choses pour en arriver à une quatrième. Il y a peu de temps. Tant de silence aussi inscrit, sans qu'il les ait écrits, dans son œuvre. Un peu, vous allez voir comme c'est amusant de valser avec ce qu'on croit être. Bon, Guitry est le plus difficile de tous. Si on veut vraiment respecter sa profondeur, pour qu'elle se traduise par la légèreté. C'est Brasillac, un nom que je me plais à prononcer souvent, contrairement à d'autres, qui disait les deux grandes vertus françaises, la hauteur et la légèreté. Mais la légèreté, justement, dans le sens de grâce, de transparence, comme ça. Alors là, le plus dur, c'est Guitry, Musset, un petit peu Jules Renard. vous savez, tous les gens qui disent les choses comme ça en un mot, c'est même plus difficile qu'Henri Beck. Et puis, parallèlement à Musset, et ça, ça surprend toujours des gens, pour la bonne raison que la vie entière de Musset est contenue dans celle de l'autre, c'est la biche. La biche, c'est très difficile, autant fait d'eau. Il faut en avoir le sens, le rythme. Mais les pièces nous catapultent. Tandis que la biche, c'est vraiment à nous à leur donner leur mouvement. Parce que la biche, c'est un auteur poétique, ce qu'on n'est pas fait d'eau.
Alors, nous parlions d'histoire d'amour donc, avec le théâtre concernant Guitry. Mais alors, vous, dites-moi, j'arrive pas à croire ça. Est-il exact qu'à 4 ans, vous ayez dit à vos parents « Je veux être comédien, je veux être à la Comédie française. »
Oui, absolument.
C'est vrai, ça?
C'est vrai, puisqu'ils me l'ont dit. Ils n'ont pas pu mentir, puisque eux-mêmes, ça les a effarés. Il paraît que j'avais ma petite tête de 4 ans, pas coincée, heureusement, mais apparente, comme ça, entre deux barreaux de la cage d'escalier de notre petite villa de la banlieue parisienne. Et un jour, ils m'ont entendu dire ça. Et c'est seulement quand j'ai écrit mon premier livre que j'ai réalisé quel avait été le détonateur. Je crois qu'on peut parler, et j'en parle en toute humilité, c'est beaucoup plus qu'une vocation, c'est une prédestination absolue. Mais la chose qui fait qu'on a extrait ça de moi, un peu, vous savez, comme dans les sublimes romans de Robin Hobb, j'oublie toujours son nom en tant que femme, où on parle du vif, les relations avec l'autre, un animal au besoin, où on suscite la pensée de l'autre. Bon. Et ben, c'est une très vieille dame qui était notre voisine et qui venait passer toutes ses matinées dans la cuisine de ma mère, où j'étais aussi sur ma petite chaise, on avait scié les pieds. J'avais donc 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Et elle venait raconter ses souvenirs d'abonnés de la Comédie française. Et après, je me suis dit, quand j'ai réalisé, je me suis dit, mais bien sûr, tout est venu de là. Quand je suis entré chez mon premier professeur à 10 ans et demi, puisque mes parents m'avaient dit, ces gens sublimes qui ne se sont jamais opposés à ça, eh ben, entre d'abord en 6e. Alors, je suis entré en 6e à 10 ans et demi. Immédiatement, je me suis fait inscrire dans un cours. Et je les ai sidérés, ces braves professeurs, en leur disant, mais c'est... On travaillait la Parisienne, par exemple. Une élève travaillait la Parisienne. Et je leur dis, mais... C'est étonnant parce qu'à travers ce que vous dites, on n'imagine pas du tout que ça puisse être créé par Mlle Rechimbert. Ils m'ont regardé mais effaré, vous étiez bien. Mais quoi, qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi? Parce que Mlle Rechimbert, elle joue Agnès aussi. Mais c'est pas ça tellement qui est important. Comment connais-tu Mlle Rechimbert? Et je me suis dit, oui. Et je connaissais tous les noms de tous les acteurs de la Comédie française à travers cette vieille dame qui s'appelle Emilia Conze, qui était atteinte de spondylothrysomélie, qu'elle avait la tête qui tombait un peu vers les genoux, et qui racontait ce théâtre rouge et or, qui racontait toutes les pièces qu'elle avait vues. J'ai été nourri de ça bien avant d'entrer à toute autre école, et ça m'a fait surgir, je suppose, je ne l'ai analysé qu'après, le fait que j'avais en moi ce besoin-là, qui n'existait absolument pas dans ma famille, naturellement. Ce qui fait que ça a été si violent, et que même après, j'avais commencé le piano parce que j'adorais ça. Mes parents voulaient que je sois pianiste. Et j'ai fait 24 ans de piano. Et chaque fois que Jeanne-Marie Darré ou des gens comme ça me disaient « Mais il faut faire un pianiste, mais vous allez faire une carrière de concertiste, hein. Oh, c'est gentil de me le dire, mais je veux faire du théâtre. » Et ils ne comprenaient pas pourquoi le théâtre. Et ben, c'est comme ça. Le lieu rouge et or... c'était en moi, et je l'ai dit, donc, à 4 ans. Et ça les a, effectivement, ils m'en ont parlé après, ça les a terrorisés, si bien que ma mère m'avait dit « Ne parle de ça à personne ». Et quand je suis entré à l'école communale, et qu'on nous avait posé une question, « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» pour ne pas dire que je voulais faire du théâtre, j'avais dit « Pompier ».
C'est pas et, tout à fait la même chose.
Oui, si ce n'est que c'est aussi rouge et or.
Aussi rouge et or. Alors, vous dites prédestination, mais quand je regarde votre travail et quand on vous voit travailler, je viens d'employer le mot, c'est le travail. En fait.
Ah oui,
c'est le travail. Uniquement. Donc, vous êtes passé par le conservatoire, vous avez obtenu 2 premiers prix. Comédie française, alors là, passage météorique. 5 années, mais 80 rôles.
Oui, pas vraiment météorique dans la mesure où j'ai eu la chance.
5 ans quand même, c'est pas grand-chose.
Un peu plus, Jacques, parce que...
Un peu plus
oui, un peu plus, pour la bonne raison que lorsqu'on... J'ai l'air de parler de la Comédie française d'avant et du conservatoire d'avant, c'est vrai d'ailleurs. faire. Quand on entrait au conservatoire, on était au service de la Comédie Française. On n'était pas toujours employé, mais on était quelquefois, il se fallait rendre un service ou un petit rôle muet, on allait prendre un élève du conservatoire. Et moi, j'ai eu la chance tout de suite d'être sollicité par Jacques Charon et Maurice Escand pour être stagiaire. C'est-à-dire que pendant mes 3 ans de conservatoire, j'ai été 3 ans à la Comédie Française et pour jouer des rôles quelquefois très importants. Et puis après, 6 ans de pensionnariat, si bien que ça fait quand même 9 ans. Et en 9 ans, on connaît tellement bien la maison qu'au bout de 9 ans, j'ai envie d'en sortir.
Mais qu'est-ce qui vous gênait ? Est-ce que c'était cette espèce d'assaise de la vie à la Comédie Française ou l'impression que vous alliez ronronner ?
Oh non, au contraire, l'assaise commençait à ne plus en être une. Ronronner, non, parce que j'avais fait trop d'expériences avant, puisque j'avais commencé tellement jeune que j'avais fait beaucoup de cours, donc j'avais eu beaucoup d'enseignements par les plus grands maîtres. Et quand je suis enfin entré au conservatoire, comme disait René Simon, à l'âge où il faut en sortir, c'est-à-dire au moment où on n'a plus qu'à se perfectionner, j'avais déjà une grande connaissance du répertoire, etc. Et ce qui m'a surpris, au contraire, c'est que tous ces gens que je vénérais en tant que spectateur, j'ai remarqué qu'une fois que les plus grands étaient partis, les seconds qui arrivaient n'étaient pas aussi admirables que je l'aurais souhaité et qu'on commençait à s'encrouter un petit peu. Et parallèlement à tout ça, j'allais voir les premières créations de Planchon, j'allais voir tout ce qui se faisait à l'extérieur et où ça me paraissait un travail beaucoup plus vivant et beaucoup plus fidèle aux auteurs que ça ne l'est devenu à la Comédie Française actuelle. Donc je suis parti justement parce qu'on m'a dit, tu sais, dans un an, tu vas être nommé sociétaire. Et c'est là que je me suis dit non, alors que ça avait été le rêve de toute ma vie, je me suis dit non, parce que quand on est nommé sociétaire, il faut rester obligatoirement un très long nombre d'années. J'étais encore très jeune, je me suis dit je ne vais pas jouer tout de suite les rôles que j'aimerais, parce qu'il y aura d'autres sociétaires devant moi. Et puis bah, tout d'un coup, j'ai eu envie de m'en aller pour recommencer ailleurs. Et ce qui a été miraculeux, c'est lorsque, à peine 6 ans après, les mêmes Charon et Escand m'ont dit « Reviens pour faire des mises en scène ».
Mise en scène. Alors, comme tous les gens de grande culture, vous faites des ponts entre des choses que l'on n'associe pas généralement. À propos de votre travail et de l'importance de votre travail et du travail dans votre métier,
ah oui, du travail.
Vous citez Benoît XVI. Qu'est-ce que vient faire Benoît XVI et le discours des Bernardins ?
Eh bien justement parce que, parmi les choses que j'ai comprises, car ça volait tellement haut que certaines choses m'ont échappé, ben c'est qu'avant tout, il a fait l'apologie du travail. Ça a été le point le plus fort de son discours. Je ne sais pas si vous en avez souvenance, comme on dit dans le répertoire. Et ça m'a beaucoup impressionné parce qu'il l'a dit. Je n'ai malheureusement pas pu me procurer après, ça doit être facile maintenant, le discours entier. Il l'a situé non pas seulement comme le laboureur et ses enfants, c'est déjà une très grande leçon, mais comme quelque chose qui est plus qu'une volonté humaine, qui est une manière de se relier à ce que le Créateur attend de notre passage. Alors c'est peut-être parce que j'ai une foi très profonde. Plutôt que foi, d'ailleurs, ça choque des gens quelquefois, comme quand on parle de religion, je préférerais dire confiance en la source. Ce sont des mots, pour moi, du plus grand homme encore vivant de notre temps, de l'écrivain Georges Aldas. Son œuvre est monumentale. Il a maintenant, je crois, 89 ans. Il est toujours aussi frais, aussi gaillard, si ce n'est qu'il est devenu aveugle. Et c'est dans cette œuvre que j'ai puisé un renouvellement il y a une dizaine d'années, en découvrant que ça avait été mon parcours personnel sans que j'aie le talent pour l'écrire. Alors j'avais déjà trouvé la voie de l'unanimisme, ça a été mon grand chemin. Et avec Aldas, j'ai trouvé le chemin de vous savez, comme dans certaines histoires drôles où on dit la vie, c'est un grand fleuve. Bon, mais c'est vrai que c'est lié à la mémoire de ce qui passe devant nous dans ce fleuve et qui se transforme en résurrection. Je trouve que la scène est un endroit résurrectionnel. Et cette confiance en la source, cette confiance en la création, c'est elle qui nous apprend la joie du travail. Parce que le travail n'est pas un pinceau, n'est pas une contrainte. Il faut trouver sa liberté au milieu des contraintes, comme disait Henri Roland. C'est-à-dire que dès que l'on approfondit sa technique, mais ça les musiciens le comprennent mieux, on entre dans le jeu. Il n'y a pas d'une part faire ses gammes, puis maintenant on va essayer de jouer bien. C'est si on comprend ce qu'il faut trouver déjà dans les gammes de sensibilité qu'on passe de l'exécutant à l'interprète. Récemment encore, Fazil Say, qui est un de nos grands pianistes, moins grand que Langland, mais enfin très grand quand même, disait maintenant, je continue à chercher au-delà. Et on a dit, mais au-delà de quoi ? Au-delà des notes. Et ça, c'est le travail, c'est de puiser au-delà de la chose morte qu'est la brochure, en définitive, au-delà de la ponctuation qui est notre ennemi, au-delà des mots, c'est de retrouver le verbe. Et là, j'en reviens à cette phrase que je cite si souvent, ça m'avait ébloui. J'avais eu la chance, grâce à Bernard Billot, de rencontrer Jean Guiton et on était devenus amis. Et il m'avait dit, vous savez, moi aussi j'avais hésité quand j'étais jeune, avant qu'on ne me traite de philosophe chrétien, ce qui ne l'amusait pas du tout, j'avais hésité entre la prêtrise et la comédie. Et au fond, c'est très proche, parce que pour le prêtre, le verbe s'est fait chair, et pour le comédien, la chair se fait verbe. Et c'est ça le travail, c'est pas seulement travailler son articulation. On la travaille, mais pour arriver... au bout de plusieurs années, articuler un peu moins bien pour que ça paraisse, comme dans Les Femmes Savantes, plus de la vie que de la brochure. Donc,
et le mot de Jouvet sur le corps, si c'est...
Oh, tout est suspect sauf le corps. C'est pour ça que la base de tout, justement, il y a dans notre être où circulent l'âme et l'esprit, il y a cette fameuse sangle abdominale, cet endroit au-dessus du sexe où on a peur, où on a faim, où on fait l'amour, où on procrée. C'est ça notre premier travail. Donc, c'est pour ça que Jouvet avait dit aussi la difficulté pour les comédiens, c'est qu'ils sont à la fois instrument et instrumentiste. On ne joue pas sur un piano, on joue sur nous. Et Callas avait dit, mais sur quoi appuyez-vous la voix, madame ? Sur le cœur.
Mais vous parlez de chemin, vous faites allusion à Jean Guiton, donc à des aspirations spirituelles très très fortes. Vous, quand vous jouez, vous avez l'impression de vous hisser au-dessus de vous-même, quelque part ? Il y a une espèce de magie là, qui fait que
disons
cocher
que...
est au-dessus de cocher ou que...
Oui, fatalement ça. Mais je pense que c'est à cause du fait d'avoir consacré ma vie entière au théâtre, bien sûr, donc au jeu, mais... plus encore peut-être à l'enseignement. Et c'est dans l'enseignement, dans ce que j'enseigne aux jeunes comédiens, que je me fais progresser moi-même. Coppo le disait, un metteur en scène, c'est pas un monsieur qui invente des décors, il y a des gens pour ça, qui fait les milliards de fumigènes, etc. C'est une direction de comédien, c'est un monsieur qui est capable de jouer tous les autres rôles, indépendamment de son physique, etc. C'est pour ça que quand j'ai créé mes lectures à une voix, ça a été l'apothéose du jeu du comédien. C'est ce qui fait que maintenant, quand je joue Philomène, j'ai pas du tout l'impression de jouer quelqu'un d'autre que moi. Simplement maquillé avec une robe. C'est-à-dire que l'entrée en scène est à la fois une exaltation et un abandon. Les musiciens surtout connaissent ça en disant « Mais moi, mon plus grand plaisir, c'est jusqu'à la dernière répétition. Puis après, j'entre en scène et c'est au public à écouter. Moi, je fais mon métier. » J'avais entendu aussi un jour dans une loge à Londres, avec Guinness, qui venait de jouer un rôle, une dame qui... commencer à lui faire des compliments. Oh, sir, c'est merveilleux. Il l'avait arrêté très contentement. Oh, no, no, please, ma'am, no, it's my job. Une fois qu'on a bien appris son métier, encore une citation, j'adore ça, parce que les plus grands les ont faites. C'est Musset qui, dans Badine, dit la plus belle de toutes les sciences, l'oubli de ce qu'on sait. Il faut tellement travailler qu'on n'a plus pensé du tout au comment je vais faire, mais au pourquoi je le fais. Donc pourquoi ? Ben pour rendre grâce. C'est bien que quand on entre en scène, avec finement d'humilité et de quotidienneté, même pour jouer une pièce légère, on est sacralisé en quelque sorte, on est devant des fidèles. Mais plus important que de se hausser encore, justement, c'est de se redécouvrir. On possède tellement bien, quand on le possède, de plus en plus rare, son métier, qu'on n'a plus qu'à faire... comme si c'était vrai, comme si ça arrivait pour la première fois. C'est-à-dire, j'entre en scène, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Seulement, je sais qui je suis, où je suis, et selon qui me parle, je vais découvrir qu'il me dit ça. Et là, on en revient au mot définitif de Charles Dullin. Jouer la comédie, ce monde comprend à la fin de sa vie en général, ça peut se résumer à ceci. Tu me parles, je t'écoute, j'en pense quelque chose, et je te réponds. Et c'est vrai que c'est là-dedans.
Oui,
mais avec pour ça, il faut avoir travaillé.
Alors, à propos de travail, donc, ce qui est quand même formidable, c'est qu'à 29 ans, vous avez ouvert votre cours d'art dramatique. Et alors, si je cite quelques noms, Depardieu, Lucchini, Huppert, Berry, Auteuil, Carole Bouquet, Michel Larocque, tous ces gens-là sont passés par vous.
Oui.
Vous éprouvez, on parlait de jubilation tout à l'heure, vous éprouvez une certaine jubilation à être un Pygmalion.
Ah oui, oh, ça c'est extraordinaire. Parce que c'est un échange. Parce que tout ce qu'on leur apporte, ils vous le rendent au centuple. Et je ne parle pas seulement de ceux qui sont les meilleurs d'ailleurs, qui sont fidèles, qui sont reconnaissants, avec qui on continue à avoir des échanges. Oh, bien sûr, c'est jubilatoire de sentir chez quelqu'un de ce qu'il... s'il travaille, et s'il est fidèle à un certain enseignement. Bon, ce qu'il est d'ores et déjà dans 20 ans.
C'est-à-dire que vous vous sentez très vite si quelqu'un
très devra... vite, très vite.
Un Depardieu qui arrive à 17 ans.
Oh, bah alors ça, à plus forte raison.
Il est arrivé à 17
parce
ans.
Parce que c'était à la fois...
Oui, c'était un homme de caverne à l'époque.
C'était à la fois un enfant et une bête. Vous voyez. Et en général, ils sont nos maîtres. On regarde respirer une bête et on se dit, ah bon, ça se passe là. On regarde un enfant et on se dit, bon, voilà comment on fait quand on n'a pas la conscience que ça peut plaire. Même si les enfants sont très cabots. Et oui, bien sûr. Mais ce qui est passionnant, vous voyez, c'est un enseignement. Mais l'enseignement qui a été celui de mes maîtres, hein, j'ai rien inventé, il n'y a rien de doctrinaire dans tout ça. Peut-être une ou deux petites formules parce que je les ai éprouvées moi-même. Mais de se dire qu'à travers cet enseignement, on va percevoir, on va discerner. Alors là, on va tomber sur Nietzsche. De faire lentement devenir quelqu'un ce qu'il est. Et pour repasser par Aldas, il y a la graine, mais la graine... elle contient déjà l'arbre. Je ne fais pas travailler quelqu'un en disant « Tiens, c'est bien, parce que l'année prochaine, si on monte telle pièce, tu pourras jouer tel rôle. » Oui, éventuellement. Mais comme ce qui est important, c'est la durée, comme ce qui est important, c'est l'évolution de soi-même, je vois, disons que ça a été un des dons que mes professeurs ont découvert en moi en me disant tu as le sens pédagogique, tu enseigneras. Peut-être que je ne l'aurais pas fait si eux ne me l'avaient pas dit non plus. Dès que j'étais au conservatoire en tant qu'élève, Henri Roland, Jean Meyer, me disait fais donc travailler celui-là, fais travailler celle-là, j'y arrive pas, elle est sotte, etc. Bon. Et mais moi, ça m'amusait, j'ai plus qu'à ouvrir mon cours après. Et c'est de pouvoir dire dans 20 ans, tu joueras ça. Si tu es fidèle à ta course et à ton travail, et en général, c'est ce qui s'est passé. Toujours de les révéler à eux-mêmes, de les épanouir et de faire dire à leur famille « Oh, vous savez, monsieur, vous me l'avez changé. »
Alors, ce qui est étonnant quand on discute avec eux, je vais n'en citer qu'un, hein, c'est Lucchini.
Oui.
Ils disent, on lui doit énormément, mais il nous en a fait baver. Quoi. Il dit, vous parliez de l'arbre. Lui, il dit, il a mis la mare très haut.
Oui, c'est ça.
Il met la branche très très haut,
oui,
c'est
oui,
ça
oui. Oui, oui, c'est ça, il le dit, je sais. Oui, oui, oui. Oui. Parce que ça ne sert à rien d'ouvrir un cours si c'est pour dire... Alors, les premières années, c'est-à-dire on va faire travailler ceux qui ne savent rien et qui resteront sans rien savoir pendant un an. Et puis après, selon ce qu'ils auront appris, donc rien, ils passeront en seconde année. Ça, c'est pour les garder plus longtemps. Non, il faut faire ce que faisaient mes professeurs, Mme Dussade, M. Roland, etc. On est tous exactement soumis au même langage, aux mêmes demandes, aux mêmes indications... Et puis, selon qui on est, on y parvient plus vite ou moins vite, on comprend autrement. Oui, bien sûr, il faut mettre la barre très haut. Même si on n'y arrive pas, je crois qu'il est toujours bien d'être appelé par des formules de grandeur. J'ai très jeune été frappé par la phrase de Monterland, par toutes les phrases de Monterland, ce génie, quand il disait « je ne tolère que la perfection ». Et si on ne tolère que la perfection... Ça ne veut pas dire forcément qu'on atteindra, mais que ce qu'on atteindra sera au-delà encore de ce qu'on aurait pu souhaiter. Et il disait aussi, c'est toujours lui, ce qui est atteint est détruit. Et c'est vrai, on vient de comprendre quelque chose, bon, ben, il faut continuer pour en comprendre d'autres. Donc, il ne faut pas se contenter de dire, oh tiens, tu as fait des progrès, c'est pas mal cette scène-là. Il faut dire, bon, ben, maintenant que tu as pu faire ça dans cette scène-là, maintenant tu vas travailler une scène beaucoup plus difficile. Il faut toujours pousser les gens du côté qui est le plus difficile.
Alors, vous parlez de Monterland, ça évoque un vieux souvenir.
Dites-moi.
Vieux souvenir, non, il y a 2 ans. Votre personnage de Ferrand.
La reine morte.
Mais c'est extraordinaire parce que j'ai pensé, vous allez me dire si j'ai tort ou pas. En vous voyant jouer ce personnage, j'ai pensé à Jean Meyer, j'ai pensé à Saigné, et je me suis dit, c'est un Raminagrobis dramatique.
Mais c'est ça,
C'est ça ?
C'est ça.
Et je... Quelqu'un, dites-vous d'ailleurs que vous étiez un ogre bienveillant.
Ah, c'est beau,
c'est
j'ai
beau
pas...
ça. Hein
oh, c'est... Mais c'est tout le personnage, ça.
C'est un personnage fabuleux.
Je suis content de
référente.
Ça parce que, en revanche, il y a des gens qui n'ont pas compris et qui ont dit, on dirait Hitchcock déguisé en hippopotame avec un avec un nœud papillon. Et c'est un de mes anciens élèves, ça, qui n'avait pas réussi à faire du théâtre. Alors, il était devenu critique. Et là, en revanche, il m'a encensé dans Filaminte. Alors, on est très bons amis. Mais c'est tout à fait ça, vous savez. Et alors, ce qui est amusant, c'est que moi, j'ai découvert, travaillé La Reine morte presque tout de suite quand elle a été créée à la Comédie-Française par des gens sublimes, mais qui la jouaient complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'ils jouaient une tragédie de Hardy ou de Corneille, oui. En ayant laissé de côté, parce que quand on écrivait une tragédie, on n'avait pas le droit d'avoir de l'humour, en ayant laissé de côté tout l'humour qu'il y a chez Monterland, oui. Comme il y en a dans Racine d'ailleurs. Alors je les ai adorés, je les ai vénérés, j'imitais Yonel partout en me disant que c'est beau ce qu'il fait, sans me dire si un jour je le jouerai autrement. Et quand petit à petit, l'âge est venu et que je me suis trouvé devant le rôle, après l'avoir beaucoup envisagé dans l'autre version, et en me disant, mais ça, on ne l'a pas traduit, ça, mais ça, on ne l'a pas souligné. Alors c'est drôle que vous citiez des gens, effectivement, qui ont été mes modèles pour ce rôle-là. Je me disais, c'est Saigné qui aurait dû jouer ça. Un personnage paterné redoutable. Mais ogre bienveillant, c'est sublime, ça, parce que c'est ça. Alors, ça n'exclut pas la grandeur de l'œuvre, mais elle est d'autant plus grande que le personnage est vulnérable, que le personnage a des faiblesses, et qu'il a, peut avoir de la tendresse et de l'humour. Vous savez, les auteurs français sont assez rares qui ont de l'humour, puisque nous, on pratique surtout l'esprit, et l'humour, c'est plutôt les Anglais. Et puis on pourrait dire les Américains, c'est à propos. Mais quand un auteur chez nous, a, en plus de l'esprit, a de l'humour, il y en a très peu en définitive. Alors que c'est le cas de Monterland. Et c'est souvent chez les gens qu'on croit être avant tout dramatique ou tragique qu'on trouve cet humour dont la vraie définition, m'avait-on dit, je n'ai pas été la vérifier, c'est quand c'est au-delà du désespoir.
C'est ce qu'on trouve chez Anouilh, chez Marcel
Exactement.
Aimé.
Exactement.
Marcel Aimé.
Exactement. Et nos grands hommes.
Alors vous êtes presque tout le temps sur la brèche. J'ai essayé de calculer le nombre de rôles que vous avez interprétés. J'en étais à plus de 300.
Oui.
Alors, est-ce que ça veut dire que vous vous ennuyez avec vous-même quand vous ne travaillez pas ?
Oh non, pas du tout. Je crois que... J'ai encore seulement 5 ans, j'aurais pas su répondre. Je crois que c'est parce que plus on fait de choses, plus on trouve de temps pour en faire d'autres. D'abord, on se rend compte que le sommeil, pour récupérateur qu'il soit, n'a pas besoin de dépasser 5 heures, qu'il faut garder toutes ces matinées, même quand on n'a pas de cours ou autre chose. C'est les Marseillais, c'est curieux, qui disent que la matinée est la mère de la journée. C'est-à-dire que plus on fait de choses, plus on arrive à s'organiser, donc plus on a de temps. Et c'est plus j'ai eu de choses à faire que j'ai trouvé du temps à m'accorder. Pour l'amitié, pour la lecture. Et non, au contraire. D'abord, je m'ennuie jamais, même seul, puisque je me considère comme jamais seul. C'est une solitude peuplée. Pas beaucoup de morts, pas mal de vivants, tous les livres qui sont autour de moi. Et puis, non. Madame Bovy, justement, disait, je ne sais pas comment les gens font pour s'ennuyer. Moi, je voudrais, je ne pourrais pas.
Mais terminons par quelque chose de
joyeux.
Positif et de joyeux.
Oui.
Question très, très personnelle. Vous n'êtes pas obligé de répondre. À votre avis, et en toute modestie, bien sûr, quelles leçons ceux qui viennent de vous écouter là peuvent tirer de votre expérience ?
Oh, en toute modestie, c'est difficile. Alors, je vais même vous dire, c'est difficile parce que j'aime pas la modestie. Je ne reconnais que l'humilité. Mais
vous adorez jouer avec les mots, hein ?
Bah oui, c'est un peu mon métier, même si je les contre. Non, la modestie, j'aime pas la modestie. D'ailleurs, les gens sont rarement modestes. Mais l'humilité, ben oui, bien sûr. Savoir s'effacer des risques plus grands. Je pense sincèrement, puisque beaucoup me l'ont prouvé, puisqu'on a la gentillesse de me le dire, puisque ça me touche au plus profond de mon cœur, je pense que ça peut leur apporter sur certains sujets, de mieux les aborder, de mieux les concevoir, de mieux vivre. Je me plais à être un passeur des choses que j'ai éprouvées comme étant les meilleures, vers ceux dont j'aimerais qu'ils les rendent meilleures aussi.
Nous resterons sur cette image du passeur. Je rappelle donc que vous venez de jouer le rôle de Philamète dans Les Femmes Savantes, donc la pièce de Molière présentée à Paris au Théâtre 14, dans la mise en scène d'Arnaud Denis. Un spectacle qui restera, je le redis, comme l'un des principaux événements théâtraux de la saison 2009-2010 et dont on espère qu'il fera carrière ailleurs dans les mois qui viennent. Jean-Laurent Cochet, merci.
Merci à vous.